Secret d'info, Benoît Colombat, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Jean-Christophe Collin, vous êtes grand reporter à l'Équipe et vous venez de publier une enquête intitulée « Le livre noir du sport russe » aux éditions Stock, une plongée passionnante dans les coulisses du sport et de la raison d'État. La Russie, l'ex-URSS, c'est un pays que vous connaissez bien depuis longtemps et ce que vous montrez, c'est que pour le Kremlin, eh bien, le sport a toujours été un instrument très politique.
Oui, c'est un levier de pouvoir et de propagande depuis toujours en URSS d'abord. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y a une continuité entre les méthodes utilisées par le pouvoir soviétique, par le Kremlin, et par le pouvoir russe aujourd'hui de Vladimir Poutine qui s'inscrit dans cette continuité du sport comme levier de pouvoir et de propagande.
Alors, ce qu'on comprend dans votre enquête, c'est que il y a les sports traditionnellement soutenus par le pouvoir soviétique ou russe, comme la gymnastique ou le patinage artistique, et puis il y a les disciplines qui ont longtemps été mal vues, c'est le cas du tennis par exemple.
Du tennis, du rugby, c'était des sports considérés comme petits bourgeois. Donc Staline et Khrouchtchev les avaient interdits, les gens n'avaient aucune image du rugby, ils ne pouvaient pas le pratiquer. Et donc ce que je raconte dans le livre, c'est que par exemple ils allaient voir des films, il y a notamment un film avec Jean Lefebvre où il y a 30 secondes de rugby, les gens allaient le voir une quinzaine de fois pour se former au rugby. C'est pareil pour le tennis, il était interdit, mais il y avait des cours secrets.
Oui, un cours de tennis classé secret défense.
Classé secret défense.
Dans l'enceinte du comité central du Parti communiste.
Exactement, parce qu'on n'avait officiellement pas le droit de jouer au tennis, mais en fait, il y avait beaucoup d'amateurs de tennis. Et puis, Helsin, on le sait, sera un grand amateur de tennis et lui va faire beaucoup pour le développement du tennis en Russie.
Et ce qui se joue à travers le sport, c'est une guerre idéologique en fait au niveau mondial, ce que les Américains appellent le soft power.
Exactement, les Soviétiques ont compris ça après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une tournée d'un club de foot en Grande-Bretagne qui est resté célèbre. Et en fait, au retour de cette tournée triomphale du club du Dynamo en Grande-Bretagne, les dirigeants du Kremlin se sont aperçus que le sport avait un effet psychologique très important sur les foules. Et dans cet enjeu face à l'Occident de guerre idéologique, ils ont compris tout de suite que le sport était un levier très important. Ils vont en user pendant toute la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui.
Et dans cette bataille, parce qu'il s'agit bien d'une bataille, les services secrets soviétiques et russes sont à la manœuvre. Vous racontez comment le KGB et son successeur, le FSB, suit de très près, mais vraiment de très près, les sportifs.
Alors effectivement, il y a une section au sein du KGB, une section sport. On suit les sportifs comme les dissidents à l'époque. Et donc, cette section est chargée du suivi des sportifs, alors notamment quand ils vont à l'étranger. Il y a toujours des membres du KGB dans la délégation. Et puis, il y a les bons sportifs et les mauvais sportifs. Alors, il y a ceux qui rentrent dans la ligne du régime et puis il y a ceux qui sont un peu plus turbulents. Et ceux-là, on peut les écarter. Notamment, on le voit dans les championnats du monde d'échecs. Le Kremlin choisit son champion du monde, Anatoly Karpov à l'époque. Mais c'est vrai dans d'autres disciplines, notamment en patinage artistique, par exemple, qui est une discipline emblématique de l'Union soviétique. Il y avait effectivement les bons sportifs qui étaient soutenus par le régime et puis les autres qui pouvaient être écartés.
Et vous citez également le cas du footballeur qui n'est pas très connu du grand public, c'est le moins qu'on puisse dire, Edouard Streslov, qui a été brisé par le Kremlin alors qu'il aurait pu devenir l'égal d'un Pelé ou d'un Maradona.
C'est une histoire inconnue, effectivement, en Occident, mais c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football pour ceux qui l'ont vu jouer. Il était assez incontrôlable et puis il a fait une offense notamment à une membre du Politburo en refusant la main de sa fille et dès lors son destin a été complètement contrarié, c'est un destin complètement brisé alors qu'on dit que c'était l'égal d'un Pelé à l'époque. Quoi.
Et il a refusé aussi d'être transféré dans des clubs proches du ministère de l'Intérieur et de
voilà,
la Défense russe. Hein.
Il jouait au Torpedo, il a refusé d'aller au CSKA qui est le club de l'armée rouge, du Dynamo qui est le club du KGB et ça a brisé sa carrière à tel point qu'on l'a envoyé au Goulag pendant 4 années et malgré tout à son retour du Goulag, il redevient le meilleur joueur soviétique.
Vous décrivez également, Jean-Christophe Collin, comment la mafia russe gangrène peu à peu le milieu du sport, hein, avec des batailles sanglantes dans les années 90. Vous parlez de 400 décès de sportifs de haut niveau.
Lorsque l'Union soviétique a disparu et qu'il y a eu cette guerre économique pour l'attribution des biens de l'ex-Union soviétique, les usines, les entreprises, les administrations, la criminalité organisée, pour prendre ces entreprises, a utilisé les sportifs et notamment les sports de combat. Et c'était une guerre civile hein, dans ces années 90, il y avait énormément de morts et il y a beaucoup de sportifs qui sont morts au combat, j'allais dire.
Ce qu'on découvre aussi dans votre livre, c'est l'influence considérable des services secrets russes au sein même du Comité international olympique. Vous dites que le CIO est un nid d'espions pour les services russes.
Le sport est un enjeu majeur pour le Kremlin. Et donc, les services secrets, le KGB, s'occupe de près des sportifs. Il les contacte et il les recrute au début de leur carrière. Et on remarque que beaucoup d'entre eux ont connu des carrières fulgurantes. Et j'ai eu la chance de rentrer en contact avec un colonel du KGB qui était dans la fameuse section sport du KGB. Et lui, effectivement, m'a assuré qu'un certain nombre de membres du comité olympique avaient été recrutés par le KGB.
Alors, vous écrivez que pour le Kremlin, le sport est le moyen ultime de prouver qu'on exerce la domination sur un territoire. Et vous citez un exemple assez édifiant, celui du président Ramzan Kadyrov, qui fait régner la terreur en Tchétchénie et qui invite des stars du football brésilien pour redorer son image.
Kadyrov, il a organisé des matchs de foot et il a fait venir les anciens champions du monde de l'équipe du Brésil contre espèces sonnantes et trébuchantes. Un match de football à Grozny, auquel j'ai assisté. Absolument effrayant parce que Kadyrov jouait lui-même contre l'équipe brésilienne.
Et on le laisse marquer des buts.
Et on le laisse marquer des buts parce que les joueurs brésiliens étaient un peu effrayés à l'idée de jouer contre un dictateur finalement.
C'est-à-dire qu'au début, le gardien de but brésilien arrête les buts et à la mi-temps, on lui dit « Mais arrête, tu es fou, tu veux qu'on
tu
se fasse
fou,
tous massacrer. »
On va jamais repartir, quoi. Si on joue au football, ça veut dire que le pays est sous contrôle et qu'il n'y a pas de problème.
Et c'est ce qui s'est passé également avec les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014.
Exactement de la même manière. C'est pas anodin que ça ait été fait à Sotchi, c'est-à-dire
dans le Caucase.
Et c'était pour montrer que ce territoire est sous contrôle.
Vous revenez aussi longuement sur les affaires de dopage, un dopage institutionnalisé.
Depuis toujours, depuis l'après-guerre, quand les Soviétiques rentrent dans le grand jeu du sport pour essayer d'exercer une domination sur le sport mondial, bien sûr, le dopage en fait partie.
Et tout ça, c'est sur fond de bras de fer avec les Américains. C'est un peu comme s'il y avait une course au dopage entre les deux pays, finalement.
Exactement, de la même manière qu'il y avait une course à l'armement et une course aux étoiles pour être les premiers dans l'espace. Eh bien, dans le sport, ça marchait exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il fallait dominer l'autre. Tous les moyens étaient bons, y compris le dopage.
Et les Américains faisaient pareil.
Les Américains faisaient exactement la même chose.
Alors, vous révélez dans votre livre qu'aux Jeux de Sotchi, aux Jeux Olympiques de Sotchi, eh bien, c'est la même technique pour masquer le dopage qui a été utilisée 30 ans plus tôt aux Jeux de Moscou.
Effectivement, j'ai découvert ça. Donc on sait qu'il y a eu un scandale énorme de dopage aux Jeux Olympiques de Sotchi. Le KGB est intervenu pendant la durée des Jeux Olympiques pour rendre propre des urines d'athlètes dopés de la délégation russe. Et on les subtilisait la nuit pour les remplacer par des urines propres. Et ça a déjà été organisé de la même manière lors des Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Tout était organisé pour que le triomphe soit total. Alors, sous la pression internationale, ils vont être obligés de changer. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. Il faut que le Kremlin, et notamment Vladimir Poutine, reconnaisse officiellement que la Russie a truqué les Jeux de Sotchi notamment. C'est difficile parce qu'il y a un de ses amis proches, qui est Vitaly Mutko, qui l'a nommé vice-premier ministre, qui était ministre des Sports et donc qui a été accusé à ce titre d'avoir couvert ce scandale de dopage.
Il ne peut pas le lâcher.
Pour Vladimir Poutine, c'est très compliqué, d'autant qu'il y a un certain nombre d'accusations qui montrent que Vladimir Poutine était au courant de ce dopage d'État. S'il reconnaît qu'officiellement la Russie a truqué les Jeux, c'est se désavouer lui-même.
Merci Jean-Christophe Collin. Je rappelle le titre de votre livre vraiment captivant, Le livre noir du sport russe aux éditions Stock.